Radio Barque, 32e de cette 8e saison. Dans cette troisième partie, Yves Penet, donc adjoint au maire chargé de la culture, nous allons continuer à évoquer les musées de Narbonne, les musées futurs. Alors Yves Penet, vous nous avez laissé entrevoir ce que seront des futurs travaux d'aménagement. Bien entendu, vu ce que ça représente, il y a un financement ou des financements à définir et à bâtir.
Bien entendu. Alors là, il y a eu déjà, au cours d'un précédent conseil municipal voté dans le cadre du PPI, du plan pluriannuel d'investissement qui va de 2021 à 2026.
Ça, c'est pour la ville de Narbonne.
Pour la ville de Narbonne, qui a été budgété 6,5 millions d'euros. Maintenant, il est inconcevable qu'une ville puisse porter toute seule cette restauration au niveau du palais musée des archevêques, puisqu'il y a énormément de choses à faire au niveau sécurité, au niveau incendie, à tous les niveaux même. Et c'est pour cela que nous attendons des subventions des monuments historiques, puisque le palais musée des archevêques est un monument classé au monument historique, mais également au niveau de la DRAC. Nous avons même fait un dépôt au CPER, le contrat plan État-Région, afin d'avoir des financements pour ce projet palais musée, notamment cette phase 1.
Oui, et comme on le sait, vous l'avez déjà évoqué, en France c'est complexe, il y a des financements multiples, comme l'on dit, et évidemment il faut arriver à leur faire des dossiers et aller chercher de l'argent un petit peu partout.
Bien entendu. Alors bien sûr, on n'attend pas d'avoir tous les financements pour pouvoir lancer tout, puisque les études...
Il y a des phases qui se font.
Voilà, il y a plusieurs phases qui sont faites. Là, aujourd'hui, le PSC, le projet scientifique et culturel, a été rédigé au cours d'un précédent mandat. Nous avons lancé une phase d'études de programmation qui a été faite et rendue. Nous avons des études, que ce soit archéologiques ou du bâti, qui ont été faites. Nous avons même fait pour 650 000 euros en 2021 et 50 000 euros en 2023 le confortement de la tour Théodard qui menaçait de s'écrouler.
Alors tour Théodard, c'est une tour qui est dans la cour de la Madeleine. Il faut entrer dans la cour pour la voir.
Voilà. Alors la cour Théodard, c'est le clocher de la première cathédrale de Narbonne de l'évêque Théodard. Voilà pourquoi on y a donné ce nom.
Oui, c'est quoi, à l'époque visigothe?
Je ne l'ai plus en tête, je suis désolé.
Mais enfin, c'est à peu près début du Moyen-Âge.
Oui, tout début du Moyen-Âge.
Donc cette tour, alors, elle a été quoi, sécurisée, mise en bas
Alors, cette tour, elle a été sécurisée, elle a été plus que sécurisée, puisqu'on a même mis des capteurs dessus pour voir si elle évoluait, s'il n'y avait pas de nouvelles dégradations par la suite, hein, en fonction des travaux que nous avions faits. Voilà.
Donc elle est appelée à rester. Alors c'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur, hein, qu'on n'y pénètre pas.
Alors on peut y pénétrer, puisqu'il y a un escalier qui permet de monter...
Mais publiquement pour les touristes.
Alors publiquement non, puisque c'est une tour qu'on voit de l'extérieur, c'est juste une tour, quoi. C'est un ancien clocher uniquement.
Oui, voilà. Mais c'est le rappel justement, c'est peut-être les prémices de cet ensemble finalement.
Ah ben, cette cathédrale et l'histoire du palais des archevêques sont aujourd'hui implantées ici, car il y a eu cette cathédrale de l'évêque Théodard. Mmh. Oui, comme vous le disiez, après c'était 8e, 9e siècle. De mémoire.
Voilà, donc c'est vraiment les tout débuts de ce qui est devenu aujourd'hui cet immense bâtiment. Alors, il y a les musées maintenant, on les a évoqués. Alors, les travaux, vous les avez évoqués pour donner une idée de ce que sera la configuration. Mais les musées, on l'a vu, la libération, par exemple, de la Mourguée, c'est un espace qui devient vide. Qui mettre dedans? Apparemment, vous n'êtes pas en peine de trouver un certain nombre d'œuvres pour remplir les espaces qui se sont libérés.
La ville de Narbonne est une ville rayonnante et fière de son passé. Et elle a en son sein plus de 45 000 œuvres dans ses collections. 45 000 œuvres, si on compare au Louvre, si on compare au Met de New York, c'est rien du tout. Mais par contre, à notre échelle, c'est colossal. Nous avons des chantiers de collection en continu pour de la restauration, de manière à mettre en avant toutes ces choses magnifiques. Alors, j'ai envie de vous en citer certaines. Donc, beaucoup de Narbonnais ont vu lors d'une exposition qui s'intitulait « Quoi de neuf au palais ?» avec notamment nos deux magnifiques sarcophages égyptiens. l'un d'une princesse, l'autre d'un prêtre. Mais également, dernièrement, on a parlé, on a même fait de petites vidéos autour de la tapisserie flamande de la création qui est partie en restauration et qui, là, va être transportée incessamment sous peu au Met de New York pour une très, très grande exposition autour des Tudors. Dernièrement encore, les Narbonnaises et les Narbonnais ont pu admirer ce coffret qui répond au nom d'Ismaïl, ce coffret en ivoire d'une valeur exceptionnelle qui était exposé à trésor et qui a été fait, qui a été l'objet, l'un des objets phares de l'exposition Les Arts de l'Islam, un passé pour un présent. Bref, la ville de Narbonne a énormément de collections magnifiques à montrer, y compris dans les arts extra-européens.
Alors Yves Penet, quand vous mentionnez ces sarcophages égyptiens, vous en dites trop ou pas assez, parce qu'on va se poser la question, comment Narbonne peut-il ou peut-elle posséder des sarcophages égyptiens?
Alors,
on sait aujourd'hui par les polémiques qui existent, qui naissent, même les affaires judiciaires qui naissent sur ce qu'on appelle des trafics de pièces comme celle-ci.
Alors, à l'image du musée du Louvre ou d'autres musées prestigieux que nous avons en France ou même en Angleterre, il y a eu une époque vraiment très importante qui était à la mode au niveau de tout ce qui était égyptologie. Il y a eu énormément de dons. D'ailleurs, les œuvres que possède la ville de Narbonne aujourd'hui, et quand vous visitez le musée, vous pouvez le voir, puisque en dessous, dans le cartel, il y a mentionné soit le donateur, soit la personne qui a créé cette œuvre. Et les sarcophages n'échappent pas au reste. C'est des dons qui ont été faits quand c'était à la mode au début du XXe siècle.
Oui, voilà, c'est surprenant, mais finalement, à une époque, c'était assez banal, semble-t-il.
Oui, puisque les musées vivaient à travers de dons et de personnes mécènes qui amenaient leur contribution au musée. Aujourd'hui, un musée peut être perçu par les jeunes publics ou les moins jeunes, même des fois comme des lieux poussiéreux, des lieux où on n'ose pas pousser la porte. On a peur s'ennuyer même des fois. C'est pour ça qu'on réfléchit tous les jours à améliorer l'accueil, à améliorer la scénographie, comment amener ce petit plus qui va donner envie aux gens de rentrer. Mais au début du XXe siècle, le musée était un véritable lieu de vie, un lieu vivant, où même des artistes venaient régulièrement pour peindre, reproduire des œuvres, s'inspirer. C'était un lieu de vie.
Aujourd'hui, un musée, par exemple, comme Narbovia, a ce que l'on pourrait appeler un centre de recherche.
Bien entendu, puisqu'aujourd'hui, cela va de pair. Nous avons également à la ville de Narbonne des archéologues, notamment à la personne de Dominique Moulis, qui est un archéologue qui travaille au sein de la direction du patrimoine. Aujourd'hui, pour expliquer, pour démystifier, démythifier, vulgariser même, parce qu'il faut vulgariser les choses de manière à les rendre accessibles, nous avons besoin de ces scientifiques, de ces chercheurs, de ces étudiants, de manière à amener le plus d'informations possible sur les œuvres que nous possédons. C'est le cas notamment quand nous avons fait en 2014-2015 le récollement, où est sorti de ce récollement les 45 000 œuvres dont je viens de vous parler.
Le récollement, c'est une sorte d'inventaire, quoi.
Exactement, tout à fait. C'est un inventaire que nous faisons régulièrement de manière à avoir davantage d'informations sur ces œuvres, compléter vraiment le corpus d'informations qui fait qu'on va pouvoir les expliquer au public et même nous. Cela va nous aider dans la compréhension et justement dans l'agencement et dans les nouvelles scénographies qu'on va mettre en place.
Alors, vous avez évoqué également, Yves Penet, une exposition récente sur l'art islamique. Là encore, Narbonne semble posséder un fonds islamique riche.
Bien sûr. Alors, quand on parle des arts de l'islam, on parle du patrimoine. Il y a l'islam avec un grand I, l'islam avec un petit I. L'islam est également une civilisation. Certes, elle n'est pas restée autant de temps à Narbonne. Certains s'accordent à dire 40, 38, 40 ans, d'autres un peu plus.
L'époque sarrasine.
Voilà, tout à fait. Alors que si on prend l'exemple de Séville, ça a été beaucoup plus long comme époque. Mais aujourd'hui, force est de constater que, notamment dans le parcours médiéval, et quand on partira à l'étage de cette époque visigothique, qui ouvrira plus loin sur la Renaissance, on va retrouver dans la période médiévale des arts de l'islam, de Byzance, mais également des albâtres de Nottingham, bref, plein de choses que nous possédons dans nos collections et qui font partie de ces civilisations. De tout temps, les civilisations ont voyagé. Bien entendu, quand elles voyageaient, c'était souvent pour se faire la guerre, notamment à cette époque. Mais il faut pas oublier que Narbonne a été une ville qui a été élisique, puis romaine, puis visigothique, puis elle a été également un peu sous l'islam, Byzance, avant de revenir
à l'époque franque et vers France, la France, voilà. Quoi, et l'orbite française aussi.
Tout à fait, voilà. Donc en fait, nous sommes en Narbonne, un peuple, j'ai envie de dire, métissé.
Absolument. Et alors justement, quand on voit la foison que vous évoquez, Yves Penet, la quantité d'œuvres, par exemple, c'est ce qui a été montré dans l'exposition islamique. Est-ce que ça va devenir quelque chose qui est exposé à demeure? Est-ce qu'on a la place pour ça?
Alors, dans l'expo Les Arts de l'Islam, il y avait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers des musées régionaux, un tiers du musée du Louvre et un tiers de Narbonne.
Des emprunts.
Voilà, c'était des prêts. Narbonne, nous avons eu l'accord favorable de la RMN, du Rassemblement des musées nationaux du Grand Palais et du musée du Louvre, puisque nous avons exposé plus d'œuvres que d'autres villes, puisqu'il y avait 18 œuvres qui sont sorties de nos collections. Il faut savoir que nous avons des collections très très riches, comme je l'ai abordé précédemment. Des salles des orientalistes magnifiques. Et ces œuvres qui ont été exposées pour cette expo, un passé pour un présent, les arts de l'islam, étaient exposées ni plus ni moins que dans le trésor de notre cathédrale Saint-Just-Saint-Pasteur, notamment pour le coffret en ivoire.
Voilà. Et un dernier mot, Lamourguier, on l'a évoqué, il y a une étude qui court. Est-ce qu'on a une petite idée, ou pas encore, c'est peut-être prématuré, de ce à quoi ça va servir? Le Lamourguier nouveau, quel look, si vous me permettez l'expression?
Alors, Lamourguier nouveau, quel look? Aujourd'hui, je ne peux pas dévoiler tous les projets de ces études qui sont sorties, mais ce qu'il en reste, c'est que Lamourguier doit rester un lieu accessible de tous, un lieu accessible aux Narbonnaises et aux Narbonnais. Ça pourrait être un lieu d'exposition, ça pourrait être un lieu également où on pourrait venir faire des conférences, des concerts, mais également un lieu où on pourrait déguster et se régaler les papilles à travers les médéales notamment. Bref, toutes ces études et ces projets sont dans les bacs, j'ai envie de dire, car il faut que ce projet reste un projet très intéressant pour le cœur de ville et que ça soit un lieu de vie. Et ça, c'est important que Lamourguier soit un lieu de vie. Il a été un lieu de culture et de patrimoine. Il doit le rester, mais il doit être un lieu de vie et un lieu très, très important à ce niveau-là.
Voilà. Et là encore, la proximité idéale, vous le rappelez, n'y est pas pour rien.
Tout à fait. Si vous me le permettez, votez pour les Halles, car en ce moment, nous sommes sur le concours du plus beau marché de France. Et cette fois-ci, après avoir terminé deuxième, j'espère que les Halles de Narbonne vont gagner. Ça serait vraiment mérité, car nous avons les plus belles Halles au monde.
Voilà, alors votez pour les Halles. Et ça, on peut le dire, même en période d'élection législative. Merci Yves Penet, merci pour ce dernier conseil donné aux Narbonnais. Le prochain Radio Bar qui verra encore dans la série une évocation de la culture narbonnaise, puisque là je recevrai les deux directeurs du musée Narbovia, Valérie Broussel qui est directrice générale et Mohamed Béel qui lui est le directeur technique. Et alors là on va entrer beaucoup plus dans le détail de ce musée de la romanité. Merci Yves Penet, merci aux auditeurs de nous avoir suivis et bien entendu à la semaine prochaine.